In 500 meters, go straight, and then go straight.
Entre les pages. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Entre les pages, l'émission qui parle du monde des livres en Anjou. Encore une fois, pour ce 169e opus, je vous emmène à la rencontre des autrices et auteurs actuellement en résidence à la maison Julien Gracq, Sophie Coiffier et Karim Katan. L'une, c'est l'écriture clinique, rigoureuse, qui tente de comprendre par l'écriture son évolution artistique. L'autre, Karim Katan, c'est le lyrisme, un lyrisme puissant mais sans emphase, construit avec les mots d'aujourd'hui. Et ça marche. Préparer une conversation avec des invités à des places si différentes sur l'échiquier de la littérature n'a pas été chose aisée. Mais c'est le moment de sauter dans le grand bain et je vais commencer avec vous, Sophie Coiffier. Bonjour.
Bonjour.
Nous nous sommes déjà rencontrés lors du festival Les Préférences, au mois de septembre dernier. Vous m'aviez sauvé la mise. Je devais animer la rencontre avec Gaëlle Obiegli et train en panne, pas de Gaëlle Obiegli, et donc nécessité d'improviser, et vous l'avez fait haut la main avec une très très belle lecture, et je vous en remercie encore. Je crois qu'il est important de vous présenter, alors si je devais le faire en quelques mots, et que je disais que vous êtes docteur en arts plastiques, plasticienne et autrice, est-ce que ça serait suffisant ?
C'est déjà pas mal, mais je sais pas à quoi vous répondre. Je pense qu'aujourd'hui, je mettrais plutôt autrice en premier, en fait. Ça, c'est l'ordre chronologique, mais l'ordre de construction, aujourd'hui, je mettrais plutôt autrice en premier.
Vous venez de publier au mois de janvier un petit essai. Alors, j'appelle ça un essai, hein, peut-être que je me trompe, aux éditions Lire des marges, qui s'intitule « Précis d'évaporation ». Et ce n'est pas un essai sur la chimie. Alors, c'est quoi ?
Alors, en fait, s'agissant du titre, j'ai travaillé sur le sens de l'évaporation, le mot du XVIIIe siècle, qui parlait d'évacuer au départ un liquide ou de la fumée. Et ensuite, c'est devenu une définition de faire ressortir un sentiment au dehors. Et en fait, je prends dans Précis d'évaporation, l'évaporation dans ce sens-là. Et ce qui m'intéressait, c'est en fait de faire une enquête. C'est pour ça que ça s'appelle un précis. Pour essayer de comprendre pourquoi j'avais arrêté les arts plastiques pour passer à l'écriture et pourquoi les arts plastiques, en tout cas le dessin, me manquait beaucoup encore aujourd'hui.
Donc une situation paradoxale, oui. Pourquoi ça disparaît et pourquoi ça manque.
Exactement.
Alors, puisque ça disparaît, est-ce qu'on peut supposer qu'il y avait quelque chose de déceptif dans le dessin ?
Alors, pas dans le dessin lui-même, mais dans le fait de produire des images au milieu d'un monde qui est rempli d'images. En fait, je pense que ma déception a été celle-ci. C'est-à-dire que j'avais l'impression de faire une course de à la fois de vitesse et de fond, sans aucun espoir d'y arriver. Et assez rapidement, je suis passée à l'écriture. Sans pour autant publier tout de suite, mais l'écriture m'a permis, j'ai ressenti beaucoup de liberté, au fait de pouvoir inclure dans un texte absolument tout. C'est-à-dire on peut mettre des espaces, on peut mettre des couleurs, on peut mettre des formes, on peut mettre des films, on peut mettre des poèmes, on peut mettre ce qu'on veut dans un texte. Et en fait, j'ai ressenti une liberté beaucoup plus grande. Au moment où je suis passée à l'écriture, j'avais à peu près 30 ans dans l'écriture.
Sachant que vous dites dessin, moi, ce que j'ai vu de vos travaux, ce n'est pas que du dessin. Il y a de l'installation, c'est beaucoup plus vaste que ça, votre travail plastique.
Oui, j'utilisais à peu près tout, mais c'est vrai que c'est quand même dans le dessin que je m'épanouissais le plus.
Mmh. Mmh. Alors, vous présentez vos pratiques plastiques et d'écriture comme un bouclier. Alors, j'essaye de trouver le passage, voilà, que je voulais lire. Un bouclier en forme de besace ou de sac qui contiendrait des outils pas encore finis, mais qui servent déjà. Enfin, servir n'est pas le mot juste, car ces outils-là ne sont pas serviles. Ils pourraient être des armes, en quelque sorte, mais ils ne le veulent pas non plus. Ils ont une volonté. Voilà, ce sont des outils en forme de volonté qui accouchent de possible. Mais quand vous utilisez le terme de bouclier, un bouclier, ça sert à se protéger ?
Oui, absolument.
Ouais. Et ça protège de quoi, chez vous, le bouclier ?
Alors, l'enquête n'a pas poussé le détail à ce point. Mais
comment ça ? Vous définissez un objet et vous n'allez pas plus loin que la définition ?
Non, je ressentais... Enfin, je sais que c'est un bouclier. Après, je n'avais pas non plus envie d'un livre de psychanalyse. Donc, je ne suis pas allée de ce côté-là.
Dans ce livre... À plusieurs reprises, vous utilisez le pronom composé, je n'ai pas trouvé d'autre formule, « je, tu ». Autrement dit, c'est vous qui parlez et en même temps, vous vous adressez à vous. Ça veut dire quoi dans cette manière d'écrire ?
Alors, je comprends qu'on puisse l'interpréter comme ça dans ma tête. En tout cas, quand j'ai écrit ça comme ça, c'était plutôt moi à deux époques différentes. Donc, le moi de maintenant et le tu, c'est le moi de...
Le tu du dessin.
Voilà, du passé.
Parce que moi, je l'ai lu dans la même temporalité. J'ai lu ces deux pronoms associés, en fait, dans la même temporalité. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle se pose finalement comme question quand elle formule ces phrases-là ?
En fait, c'est une tentative de rassemblement de ces deux époques de moi. Aujourd'hui, ce qui correspond bien au fait de rassembler l'arrêt des arts plastiques et le fait que l'écriture soit advenue dans un même espace et dans un même temps.
Dans ce précis, alors vous dites arrêt des arts plastiques, c'est vraiment un arrêt des arts plastiques ?
J'ai arrêté pendant 20 ans, oui.
Donc ça, c'est dit au passé. Ça veut dire qu'aujourd'hui, est-ce que les arts plastiques resurgissent, réémergent, ou est-ce que le besoin de l'expression plastique, il y a des poussées comme ça ?
Oui, ça réémerge. Après, j'ai des problèmes aux yeux, ce qui fait que je ne peux plus avoir la précision que j'avais avant. Donc, je suis obligée de trouver des techniques pour pallier ce problème.
Alors, ce livre, ce précis d'évaporation... Il y a du texte, il y a aussi l'iconographie. Qu'est-ce qui a présidé au choix des images qu'on voit régulièrement dans le texte ?
Alors pour moi, j'ai envie de dire que c'est plutôt une ponctuation, les images, comme des étapes, un petit peu. La temporalité, c'est pas forcément elles ne sont pas forcément chronologiques, ces étapes-là, mais... Il y a des coïncidences, je dirais ça comme ça. Il y a des coïncidences, des carrefours, donc plusieurs carrefours, c'est-à-dire plusieurs moments où il y a des choix, des chemins qui ont été pris. Je pense que c'est des ponctuations avec des carrefours, je dirais ça comme ça.
Parce que je pense à une des illustrations, vous écrivez dessus, je pense à la table avec des chaises, que vous décrivez parfaitement le matériau, la couleur, la structure qui sont autour de ça. Donc, ça voudrait dire que ça correspond à quel carrefour ou à quelle articulation, peut-être plus que carrefour.
Alors, c'est celle des artichauts ou... Oui, c'est ça.
J'aime beaucoup ça. C'est celle des artichauts.
Oui, bon, alors pour les auditeurs, oui. C'est une table de jardin avec des chaises en fil de plastique.
En fil tressé.
En fil tressé. Mmh. Et une sorte de compotier avec deux artichauts presque en lévitation à l'intérieur. Alors là, c'est. Je dirais que ça, c'est. Au niveau de l'articulation, c'est plus une articulation entre la nature morte, dont je parle pas mal, et j'ai envie de dire la nature vivante, entre guillemets, c'est-à-dire les tableaux vivants qu'on a sous les yeux et qui sont des modèles d'écriture, tandis que j'ai laissé le modèle justement de la nature morte des tableaux ailleurs, enfin, dans le passé.
On veut dire, sans faire une psychanalyse de prise unique, la nature morte, c'est le passé, c'est ce qui n'est plus, c'est ce qui n'est plus possible, c'est là votre saturation d'images que vous ne pouvez plus supporter.
Dans la nature morte, il y a quand même une temporalité de regard, c'est-à-dire qu'il y a, on se pose pour regarder tous les détails, il y a une densité du temps et du regard. Qui m'intéresse pas mal parce que, en fait, c'est à la fois une image et c'est jamais totalement une image dans cette mesure-là. Puisqu'on a un ensemble à regarder et en même temps, dès qu'on tombe dans le détail, et notamment le détail pictural, on est ailleurs. C'est un autre monde qui s'ouvre. Et en fait, je ne vois pas justement la nature morte comme quelque chose. De passer, puis aussi le terme nature morte m'intéresse. Bon, en anglais, c'est still life, c'est un peu différent, voire à l'inverse. C'est un peu ces deux axes qui m'intéressent dans la nature morte. C'est le fait que c'est à la fois effectivement figé dans une image, mais en même temps, c'est très vivant dès qu'on s'installe dans le tableau.
Alors, est-ce que l'évaporation du dessin, vous dites ça fait plus de 20 ans, l'évaporation du dessin et le surgissement de l'écriture, est-ce qu'on peut parler de surgissement de l'écriture ?
Vous me posez une colle.
Mmh. Oui, c'est ça, ouais.
Je ne sais pas si c'est surgissement dans la mesure où ce serait arrivé d'un coup. Je pense que c'est davantage... En fait, il y a un travail qui a compté beaucoup pour moi, mais qui n'est pas forcément relaté dans le livre, qui est une énorme installation qui s'appelait « La bibliothèque est fermée le dimanche », et en fait, dans laquelle il y avait des livres d'artistes avec déjà des images et sans texte. Et en fait, je savais très bien que les prochains livres, ce seraient des textes sans images. C'est-à-dire, pour moi, c'était presque une transition vers l'écriture qui s'installait déjà là. Et dans cette, d'ailleurs, dans cette bibliothèque, il y avait un dictionnaire que j'avais fait qui était où il y avait juste la définition et l'étymologie du mot et une photographie ou une illustration qui tenait lieu, en fait, de définition au mot. Et je savais très bien que c'était pour moi presque... je fabriquais mon dictionnaire pour aller vers l'écriture.
Alors, pour les personnes qui seraient intéressées, elles peuvent aller sur votre site et on peut voir ce dictionnaire,
oui.
on peut le lire en fait,
tout
bonnement.
Oui.
Alors, le dessin, une transition qui est... est-ce que quand il y a eu cette exposition, cette installation... est-ce que vous aviez déjà conscience que de ce glissement, de cette translation vers l'écriture, ou ça s'est fait complètement inconsciemment, c'est-à-dire que y a eu évaporation, quoi, enfin tout bonnement.
Alors, il y a une dimension dont j'ai pas encore parlé, qui est le fait que l'arrêt du dessin, c'est pas une décision, c'est plutôt un empêchement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai ressenti vraiment une impossibilité. Enfin, c'est un plus envie, mais c'est un plus envie maladif. Enfin, c'est quelque chose de pas assumé, de pas... J'étais pas bien avec ça. Je suis restée avec un atelier. Enfin, j'avais un atelier, j'avais plein de matériel. Et en fait, tout ça a pris la poussière. Je n'arrivais absolument pas à m'y remettre. Enfin, il y avait quelque chose de complètement bloqué. En fait, j'ai écrit ce livre pour essayer de débloquer la situation.
Ce livre, il est construit, et puis on le verra tout à l'heure dans une deuxième étape. Ce livre, il est construit en 7 temps. C'est quoi ces 7 temps? Parce que on retrouvera dans l'autre livre dont on va parler, il y a une forme de, dans votre travail, une forme de, je vais dire, de rigueur, de méthode, de méthodologie, c'est-à-dire c'est très structuré, charpenté en fait. C'est comme ça que moi je le comprends, mais certainement que c'est beaucoup plus complexe que ça.
Alors ça, c'est l'arrivée. Parce que y a beaucoup de bazar et de pas du tout ordonné, de très compliqué. Enfin, c'est plein de morceaux. C'est un peu comme un patchwork pendant très longtemps. Et à un moment donné, je trouve la forme. Et là, ça fait comme un précipité en chimie, justement. C'est-à-dire que là, ça se résout pratiquement d'un coup. Mais il faut longtemps avant d'arriver à cette forme-là. Donc, en fait, effectivement, ça paraît très construit. Mais en réalité, la construction, elle met longtemps à s'épanouir, en fait.
Alors, pour qu'on comprenne, ou du moins qu'on entende, moi, j'aimerais bien qu'on entende un morceau de ce précis d'évaporation.
Alors, je voulais lire le bouclier, mais c'est trop tard.
Désolé, je l'ai...
Précis d'évaporation, premier mouvement. Au XVIIe siècle, le sens du verbe évaporer avait trait à l'émotion. Après avoir désigné le phénomène de disparition d'un liquide ou de la fumée, il s'est déporté sur le liquide particulier que sont les larmes, puis sur le fait de faire couler au dehors un sentiment. Tu as toujours pensé que les mots, comme les bâtiments ou les personnes, embarquaient avec eux l'entièreté de leur histoire, celle-ci affleurant à l'occasion d'une phrase ou rejaillissant une impression confuse. Il est vrai qu'on aimerait que les événements d'une vie s'enchaînent comme chaque point d'un dessin d'ensemble harmonieux, quiconque pouvant y déceler la marque d'un destin. Il se trouve que ta mémoire a dessiné ta vie autrement, avec des trous noirs, des dates tressées les unes avec les autres, du désaccord avec les faits. C'est la fois où photographie, jardin anniversaire, photographie, mariage, pantalon à fleurs, photographie, marionnette à main, photo, petit chien endormi sur moquette années 70, photographie. Visite aux eaux de Vincennes, lion perplexe, photographie. Visage, fausse pudeur, fausse séduction, photographie à retoucher.
Merci. Alors, ça, c'était un extrait de Précis d'évaporation. Et il fallait que je trouve une transition pour parler de l'éternité comme un jeu de taquin. En fait, je l'ai trouvé comme ça. Alors, il faut toujours retrouver les... C'est toujours compliqué. Contrairement à lui, je prends très peu de notes, voire aucune. Je prends très peu de photos. Je vis et travaille avec l'oubli, ou depuis lui en quelque sorte, ce qui n'est pas une mince affaire, ou bien si, justement. Je pense que cette manière d'écrire correspond assez bien à notre époque, qui nous enjoint de tout garder et de tout perdre dans un même mouvement. Et en lisant ce petit extrait de ce livre-là, l'évaporation, enfin la disparition, voilà, je faisais la transition. Transition faite, je ne vais pas m'étaler là-dessus quand même, trop longtemps. Il y a ce livre, donc, qui fait partie d'une collection qui a été initiée par Thierry Baudin-Hulin, qui est responsable des éditions L'Œil ébloui, avec une aventure qui s'intitule « Dire son Pérec ». Est-ce que vous pouvez rappeler un peu ce que c'est que cette aventure-là, le concept plutôt ?
De l'édition ?
Oui.
Alors, c'est la collection Pérec 53. Donc, l'idée de Thierry Baudin-Hulin, c'est de publier 53 livres en 53 pages pour dire son Pérec. Alors, il envisage... Évidemment, il y a pas mal d'écrivains qui le font. Mais il n'y a pas que des écrivains dans la collection. Il y a aussi un photographe. Il y a aussi le club des péricophiles qui font des broderies à partir d'images mathématiques utilisées par Pérec. Voilà, il y a plein de choses hyper intéressantes autour de Pérec.
Alors, c'est Thierry Baudin-Hulin qui vous a contacté ?
En fait, Anne Savelli, mon amie Anne Savelli, qui a publié aussi un Pérec, m'a parlé de cette collection. Et je suis... j'ai à peu près tout Pérec, en double même, à la maison. Et donc, je me suis précipitée sur cet homme qui ne me connaissait pas pour lui demander si, si moi aussi, je pouvais participer à l'aventure.
Alors, vous êtes, je crois, vous êtes le numéro 9. Et dans les 10 premiers, il y a quand même François Bon, Claro et Jean-Louis Bailly. Quand même, c'est une belle compagnie. Mmh. Alors, vous le dites au début, Pérec, vous le découvrez à 27 ans. Alors que vous l'aviez fréquenté avant, mais vous n'aviez en fait pas compris trop de quoi il s'agissait. Non. Mais c'est à 27 ans que ça surgit.
Oui.
Quel est le déclencheur comme ça qui fait que tout d'un coup, on entre dans Pérec ? Et pas forcément dans le plus simple, hein, c'est espèce d'espace.
Je pense que c'est général... ça se passe comme ça... ça peut se passer comme ça avec tous les livres, c'est-à-dire qu'il y a un temps pour les lire. Donc quand c'est trop tôt, on ne comprend pas ce qu'on lit. Enfin, il y a quelque chose qui n'est pas en adéquation avec ce qu'on attend d'un livre, peut-être. Et en fait, je pense que dans l'intervalle, j'ai commencé à écrire à 30 ans, donc c'est quand même 3 ans avant, et j'avais dans l'intervalle fait des études d'art plastique. Donc je pense qu'Espèce d'espace, qui est quand même un livre qui est vraiment apprécié des plasticiens, m'a évidemment parlé tout de suite.
L'écriture, elle a été fluide pour ce texte-là ?
Je l'ai écrit très vite, en 3 mois. Après, il y a eu des reprises derrière, mais en fait, la base a été écrite en 3 mois.
Mais ce livre, c'est un dispositif à la Pérec. Alors, pour le rappeler... C'est quoi parce que l'éternité comme un jeu de taquin. D'abord un jeu de taquin. Je vais vous demander de rappeler ce que c'est, mais on arrive à le terminer un taquin de toute façon. Donc il n'y a pas d'éternité dans un taquin de toute façon. Donc c'est quoi d'abord un taquin ?
Alors le jeu de taquin, c'est comme un puzzle mobile. En fait, on a connu ça. On en voit moins aujourd'hui.
Oui, on est de la même génération, donc on a connu ça.
Voilà, on a connu ça. Donc c'est un puzzle mobile. Avec 9 cases ou 16 cases, et il y en a une vide autour de laquelle tournent les autres pièces. Et en fait, on va les tourner jusqu'à reconstituer une image. Ça a servi aussi pas mal de bases publicitaires. Il y en avait dans les stations-service.
Oui.
En fait.
J'en ai eu beaucoup. En fait, pour rendre même l'image plus simple, c'est un Rubik's Cube en 2 dimensions.
Exactement.
Et donc, vous avez... l'idée d'utiliser cette image-là pour parler de Pérec, elle est venue, c'était une évidence ou ça s'est construit dans l'écriture ? Parce qu'il fallait que ce jeu-là, cet objet-là, il remonte à la surface.
Alors, j'avais déjà utilisé le jeu de taquin pour une exposition. J'en avais fabriqué un, en fait. On pouvait reconstituer une phrase qui était la fin du enfin une phrase c'était la fin du monde, donc on pouvait le lire que à condition de reconstituer le jeu taquin. Et en fait, le dernier poème de Pérec s'appelle l'éternité, et en fait dans ma tête j'ai rapproché les deux choses dans la mesure où ce qui m'intéressait dans c'est un peu, précis d'évaporation et le Pérec sont très différents parce que le sujet n'est pas le même. Par contre, il y a un point commun, c'est-à-dire que dans le Pérec aussi, c'est une enquête. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui m'a toujours fascinée chez Pérec, qui n'avait pas que à voir avec son œuvre. Il y avait aussi la question de l'être, de la personne. C'est une personne que j'aurais vraiment aimé connaître.
Et vous aviez 14 ans quand il est
voilà,
décédé.
Voilà, exactement. Et en fait,
et vous ne l'aimiez pas encore ?
Non, je ne le connaissais même pas. Je m'en voulais d'ailleurs, je m'en suis voulu rétrospectivement de ne pas l'avoir connu, pas m'être dit, il m'a 13 ans et demi, mais il faut absolument que je rencontre.
Eh bien, Sophie Coiffier, je vous remercie. On va faire une pause musicale.
You see, don't be so fake, cause I see all your shadow. Stories of soulmates are not real love.
I don't know why I'm going tonight, but I know that I do better on my own.
D'écouter Deva Harle qui a chanté No More Kids and Photos, une toute jeune artiste qui fait cette année partie de l'équipe Espoir du Shabada. Surtout, vous écoutez Entre les Pages, quelle chance vous avez, et ce n'est que sur Radio G. Après avoir écouté Sophie Coiffier, je me tourne maintenant vers Karim Katan. Bonjour Karim.
Bonjour.
Un tout petit peu près du micro.
Oui.
Merci. Alors... Là, je ne vais pas faire je vais pas essayer de vous présenter, mais par contre, je vais vous demander de vous présenter. Vous êtes qui, en fait, Karim Katan?
C'est horrible.
Oui, je sais, mais...
Il n'y a rien de pire. alors, je suis un écrivain. Voilà, je suis un écrivain actuellement en... après tout, vous me demandez de me présenter.
Oui, c'est bien, c'est parfait.
Je suis un romancier, notamment. J'écris aussi de la poésie. Je suis actuellement en résidence... à la maison Julien Gracq. Et voilà, c'est assez pour une présentation. Et
moi, je trouve ça génial, synthétique, je trouve ça génial.
J'ai fait une tentative de rassemblement.
Voilà, elle est réussie. Elle est réussie. Votre dernier roman s'intitule « L'Éden à l'aube ». Il est publié aux éditions Élysade. Moi, je l'ai présenté comme une tragédie shakespearienne que j'ai rapprochée de Roméo et Juliette. Est-ce que j'ai bien fait?
C'est sympa. On va pas dire non. C'est très flatteur. Oui, alors tragédie, oui, c'est sûr. C'est-à-dire que c'est un roman qui est écrit comme une tragédie à bien des égards, notamment dans la manière dont, dans l'intrigue, la fatalité en fait se met en place et donc broie ces deux personnages. Shakespearienne, c'est possible également. Je dirais peut-être, oui peut-être, pourquoi pas, shakespearien, il y a un mélange des genres, donc voilà, il y a un mélange des genres qui peut correspondre un peu à ce que serait peut-être une tragédie shakespearienne. Roméo et Juliette, je ne sais pas trop, je vois pourquoi, je peux comprendre en quoi le référent peut exister, avec peut-être deux éléments qui sont quand même fondamentalement différents. Le premier, c'est que ces deux personnages, donc les deux personnages de l'Eden à l'aube, Isaac et Gabriel, n'ont pas fondamentalement une impossibilité d'être ensemble, qui serait celle donc de Roméo et Juliette, d'une part, et d'autre part, chose qu'on oublie souvent, je trouve ça assez intéressant, c'est pas du tout des ados. C'est des les deux personnages sont en fait dans une trentaine bien engagés.
Oui, oui.
Donc je dirais que ces deux éléments quand même, et que je n'ai pas ce talent-là, bien sûr, mais voilà.
Sauf que. Alors, et puis on va arrêter d'aborder le roman sous cet aspect-là, mais sauf que si moi je suis allé jusque-là, c'est que il n'y a peut-être pas les parents de Roméo et Juliette, mais les parents dans votre roman, c'est le territoire
c'est ça,
qui fait l'impossible, qui rend l'impossible. Voilà.
Ce qui rend l'impossible, c'est l'occupation et l'apartheid, spécifiquement.
Oui, oui. Alors après, si moi je le présente comme ça, ce roman, c'est l'histoire d'amour entre Isaac et Gabriel, un amour qui dure un été. Ça vous convient ?
Oui.
C'est presque un conte aussi, ce roman. Le conteur, c'est le ciel. Et il s'adresse à nous. Alors pourquoi le ciel plutôt que Dieu ? Qui se situe dans la même géographie, D'ailleurs, Dieu, vous mettez, quand vous parlez de Dieu, vous mettez une minuscule.
Et c'est toujours le Dieu.
Oui.
Pourquoi ? Alors, c'est pas pourquoi le ciel plutôt que Dieu, juste en général, pourquoi le ciel ? Ça me fait penser à quelque chose que Sophie disait, c'est-à-dire que, en fait, en tout cas pour moi, un roman, en fait, je mets très longtemps à identifier la voie narrative que je veux. Et c'est au moment où j'ai la voie narrative, presque, qu'en fait, le roman est fini. Et pour l'Eden à l'aube, qui est donc cette histoire d'amour en effet un peu passionnée entre ces deux hommes palestiniens, dès le départ, je savais que je voulais que la narration soit faite par une chose non humaine, que ce soit une créature ou un objet. Et j'ai écrit le texte avec plusieurs narrateurs différents en réalité, puis que j'ai éliminé les uns après les autres pour toutes sortes de raisons, et n'est resté que le ciel. Qui s'est imposé comme le narrateur central de cette histoire. Donc, comme vous le dites bien, c'est le ciel vraiment au sens presque physique, quoi. C'est la chose au-dessus de nous. J'ai trouvé des raisons après coup, évidemment. j'ai oublié à quel moment je me suis dit, tiens, le ciel, ce serait marrant. Mais donc, je pense que ça me permet, entre autres choses... alors déjà de replacer ce territoire qui s'appelle la Palestine, qui est piégé dans une série de représentations historiques, culturelles, religieuses, en fait ça nous replace sur une autre temporalité. La temporalité et la géographie du ciel n'étant pas celle des humains, ça me donne un souffle en fait, moi ça m'émancipe de plein de choses. Et puis, comme on ne sait pas comment parle le ciel, moi, ça, en tant qu'écrivain, ça me donne une liberté de ton totale dans la narration. Mmh. Et donc, le ciel parle de plein de manières différentes, en fait, au cours de ce texte.
Mmh. Alors, il y a autre élément, c'est un été particulier. L'histoire d'amour se déroule en un été. Et c'est un été particulier parce qu'il y a le Khamsin qui souffle.
Mmh.
Et qui souffle, alors vous dites, c'est un Khamsin spécial, parce que le Khamsin, il souffle que dans un sens. Mais au cours de cet été-là, il souffle dans tous les sens. Ça veut dire quoi, ça ? Que ce vent qui logiquement souffle du sud vers le nord, je crois, là, il souffle tout le temps, quoi, et dans tous les sens.
Oui, alors pour les auditeurs et les auditrices, le Khamsin, c'est un vent du désert qui souffle dans des endroits comme la Palestine, peut-être une fois par an, c'est absolument affreux. Donc c'est un vent qui charrie tout le sable du désert et le pays est recouvert de sable. Il n'y a que du sable partout. Enfin bref, c'est horrible. Moi, à chaque fois qu'il y a le Khamsin, j'ai l'impression d'avoir une crise d'angoisse, mais ce n'est que le sable qui s'immisce en moi. Et dans l'Eden à l'aube, en gros, la particularité, c'est que le Khamsin ne s'arrête pas. c'est-à-dire qui commence en février et qui souffle sans arrêt jusqu'à la fin de l'année. Et donc, on entre tout de suite. Ça signale d'abord aux personnes qui lisent qu'on est dans une saison qui n'existe pas. Et on est dans un moment où il y a une espèce de violence à basse intensité permanente. Donc on est dans une temporalité autre, en fait. Et ça, c'est sans vouloir te renfermer, mais pour rejoindre le truc shakespearien, c'est un climat déréglé, ça fait partie des éléments d'une tragédie shakespearienne. Et donc c'est vraiment la terre et le climat qui sont complètement déréglés.
Dans ce roman, alors vous dites, vous êtes palestinien, vos héros, oui, on peut parler de héros, sont des Palestiniens. Il n'y a pas de prosélytisme dans ce roman. Les éléments de contexte sont peu nombreux. Vous, ce qui vous importait, c'était juste raconter cette histoire d'amour ?
Oui, je suis prosélyte ailleurs. pas dans mes romans. Si, un peu, mais de façon beaucoup plus subtile.
Non, c'est beaucoup plus. C'est très, c'est, là aussi, on peut parler de bas bruit, mais c'est vraiment l'histoire d'amour qui envahit.
C'est même juste l'histoire tout court, c'est-à-dire que je suis romancier, j'ai pas envie, enfin mon roman n'a pas comme visée à être une pédagogie de la Palestine. Ce que j'aime écrire en roman, c'est des choses où se déploient, et ce que j'aime lire aussi, se déploient des imaginaires et des imaginations. Alors ça reste évidemment profondément politique, parce que tout livre est politique, mais disons que je n'avais pas en tête d'expliquer une condition palestinienne à un lectorat. Ça le fait, c'est un bonus, je sais que ça le fait, parce que je sais aussi que finalement on n'imagine pas trop notamment l'intimité d'un homme palestinien, donc je pense que ça accomplit un peu de ça, mais ça n'a jamais été mon objectif. Mmh. Mon objectif dans un roman, c'est d'imaginer quelque chose.
Parce que nous, on est Européens, on vit donc l'actualité, on est soumis à l'information, et donc il y a un biais qui s'installe. C'est-à-dire qu'un auteur palestinien, il peut que raconter la difficulté de ce territoire. Et je dis difficulté, c'est vraiment un euphémisme. Et ce que moi je trouve fort dans ce roman, c'est le fait que le contexte, il est abordé nécessairement. Il faut savoir le lire. Il faut savoir savoir le lire. Le roman, il est emporté par un lyrisme puissant. Enfin, c'est vraiment... c'est extrêmement lyrique comme roman.
Oui, c'est marrant, le lyrisme. En fait, quand le livre est sorti, on a commencé à me dire que c'était lyrique et tout. Mmh. Et moi, ça ne m'avait pas traversé l'esprit. C'est vrai, de fait, après, je l'ai relu, je me suis dit, c'est vrai que c'est lyrique. C'est pour dire aussi, parfois, on écrit quelque chose, alors qu'on passe beaucoup de temps à travailler sur nos textes, on est en contrôle d'un texte, etc. Et en fait, parfois, il y a des choses qui sont d'une évidence totale, qui ne nous apparaissent pas. Et donc oui, le lyrisme, oui, c'est un texte extrêmement lyrique. Juste pour revenir à cette remarque sur le biais, j'essaie d'être court, mais parce que c'est un élément très important, au-delà même de la Palestine. Ça dépasse la Palestine. Je pense que c'est une question qui concerne souvent tout écrivain et écrivaine racisé. Et même, j'ai envie de dire, toute écrivaine femme, c'est-à-dire qu'en fait, il y a beaucoup de catégories de population qu'on place immédiatement dans l'endroit du témoignage. Alors, c'est super important, le témoignage, et c'est génial d'en faire, mais en fait, il est possible que des gens fassent autre chose. Et c'est vrai que, mais moi, jusqu'à aujourd'hui, on me demande si l'Éden à l'aube... On veut savoir quelle est la part de témoignage dans l'Éden à l'aube, comme si on n'avait pas accès à la fiction, comme si on n'était pas apte à inventer des histoires. Et je trouve ça vraiment très troublant. Et ça dit beaucoup sur nos manières de recevoir des livres.
Alors que si on lit ce livre, et quand moi j'ai parlé de tragédie, c'est que c'est une tragédie, parce qu'il faut aller au bout du livre. Et si on lit avec un petit peu de... Comment dire ? Si on se laisse emporter par l'histoire que vous nous racontez, une histoire d'amour. Enfin, c'est le truc le plus con du monde, quoi. Enfin, c'est une histoire d'amour. Des hommes qui se rencontrent, qui vont s'aimer, Quoi demander de plus, quoi? Et c'est raconté bellement. Enfin, moi, je trouve que c'est raconté bellement. Et donc, et les éléments de contexte, moi, il y en a quand même quelques-uns. J'en prends un, par exemple. Mais je ne veux pas insister dessus, mais j'en prends quand même un. Je ne veux pas revenir trop souvent sur cet aspect-là. Loin, loin, loin de vos oreilles, le mal. Mais vous constaterez qu'ils viennent d'un peuple occupé dans un pays occupé. Ils ne le mentionnent pas, car on ne parle pas jour et nuit de ce qui constitue l'étoffe de nos existences. Et je crois que le roman, il est aussi inscrit là-dedans. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de remuer en permanence, quoi. Effectivement, il faut raconter des histoires, parce que cette histoire-là, elle nous dit beaucoup de choses sur ce qu'est vivre finalement en Palestine, tout bonnement, simplement.
Oui, le passage que vous citez, c'est trois pages. C'est assez drôle, parce que c'est les trois pages les plus explicites, ou en tout cas les plus explicatives du roman, et elles apparaissent au milieu, enfin elles apparaissent très 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 tard en fait, dans le roman.
Tout à fait. Alors Isaac et Gabrielle, il y a donc, c'est une histoire d'amour, il y a de la séduction, il y a la volonté de garder l'autre près de soi, parce qu'il faut bien le garder près de soi, c'est comme ça. Et Isaac, il a un truc, il rejoue le coup des mille et une nuits. Il invente des contes. Non ? Je
oui.
vois dubitatif.
Non, oui, oui. Bah, si, c'est ce qu'il fait. Donc, en gros, la manière dont la première partie du récit se passe, c'est cette rencontre entre Isaac et Gabriel à Jérusalem. Et Isaac, pour retenir ce Gabriel auprès de lui, commence à lui raconter des histoires qui n'ont ni queue ni tête pendant des nuits et des nuits et des nuits. Le narrateur, le ciel, fait remarquer à un moment quand même que Isaac se trompe, qu'il pense qu'on séduit les hommes en parlant, alors que c'est par le silence qu'on séduit les hommes. Ça, c'est une petite pique envers moi-même que fait le ciel. J'ai juste eu un petit silence par rapport à... parce que je réfléchissais aux mille et une nuits, parce que pareil, c'est des choses, c'est drôle. C'est-à-dire qu'en écrivant ce texte, où vraiment, la première partie, la structure des mille et une nuits, elle est évidente. Je vous jure, moi, je n'y avais pas pensé. Alors que c'est d'une évidence.
Ah oui.
Et petit détail qui est important, je trouve, c'est que Isaac raconte ses histoires pour séduire Gabriel, pour garder ses yeux sur lui, enfin pour que l'autre garde ses yeux sur lui. Là où Scheherazade, elle raconte des histoires pour survivre. Il y a une petite nuance assez importante, mais oui, la structure un peu... En tout cas, ce que je peux dire, c'est que j'aime bien, en tant que lecteur et en tant qu'écrivain, du coup, les digressions. J'adore des romans qui digressent dans tous les sens. Et je pense que moi, à la base, c'était ça que je voulais. Ça dure toutes sortes de romans, enfin toutes sortes d'histoires qui s'emboîtent les unes dans les autres et qui digressent sans que ni tête.
Alors, pour qu'une histoire d'amour, une histoire d'amour, c'est horriblement compliqué. Voilà. Ça va, vous mettez en place, vous allez jusqu'à aborder la notion de rupture, mais la rupture comme un chantage affectif. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, Gabriel et Isaac vont se séparer, mais en espérant qu'ils vont se retrouver, parce qu'il faut qu'ils se retrouvent de toute façon, ils sont amoureux l'un de l'autre. Finalement, ce couple n'a rien d'exceptionnel. Il vit une histoire d'amour la plus banale qui soit, finalement.
Oui, après moi, perso, je vais pas. Ça m'arrive pas si souvent que ça, donc je sais pas, je trouve ça assez. Je trouve que c'est pas mal quand même. L'amour, enfin je veux dire, les histoires d'amour sont à la fois quelque chose d'une grande banalité, mais aussi des moments. Vous savez, il y a ces moments de limite extrême des vies qui sont les histoires d'amour, les deuils, enfin les choses qui sortent un peu du quotidien, parce que là, on parle pas d'une histoire d'amour de. Du temps long, on le comprend dès le départ, d'ailleurs, qu'il ne s'agit pas de ça.
C'est une
saison. Il s'agit de quelque chose qui se déploiera sur un temps court. Donc, c'est quand même le genre d'histoire qui fait sortir du quotidien. Je pense qu'il y a ça aussi, quand même, beaucoup, beaucoup dans cette histoire-là, oui.
Alors, il y a quelques éléments de contexte, et il y en a un qui est quand même particulier, c'est un de vos personnages qui s'appelle Monsieur Wargrave. Alors, je le dis en la française, en anglais, ça serait Wargrave, consul anglais pour la Palestine, condescendant, qui semble être toujours bloqué au temps de Laurence d'Arabie. Enfin, lui, c'est vraiment l'horloge, elle est bloquée. C'était important d'avoir un personnage comme ça dans cette histoire-là.
Je voulais un regard occidental. Je voulais spécifiquement, d'ailleurs, un regard européen, même pas occidental. C'est-à-dire le regard d'une personne puissante européenne. Monsieur Orgreave, c'est un... J'ai mis qu'il était anglais et tout, mais en vrai, c'est un français. Enfin, moi, ce que je connais, c'est les Français. C'est... je sais pas... C'est un personnage que j'aime bien parce qu'il n'est pas que une satire de lui-même. Donc c'est en effet ce consul qui adore la Palestine, qui est là dans une espèce de rapport évidemment très orientaliste à ce pays, qui a donc une histoire d'abus sexuels, mais pas que en fait avec Isaac. Il n'est pas que la satire du regard européen, il est aussi un personnage avec ses complexités, je pense, et ses contradictions. Mais c'était important pour moi d'avoir, dans un récit d'amour homosexuel qui concerne des hommes arabes, un regard européen pour aussi dire à mes lecteurs, je sais ce que vous pensez. Je le sais avant même que vous ouvriez le livre, ce que vous pensez et comment vous regardez ces personnages.
Alors, le roman, il se termine à Arthas. Arthas, c'est votre ville, votre...
Non, mais c'est pas... Moi, ma ville, c'est Bethléem, mais c'est un village. C'est un village près de Bethléem.
C'est à côté des piscines de Salomon, c'est ça ?
C'est ça, oui.
Ouais. Ben, écoutez, je vous propose qu'on fasse une deuxième pause musicale.
Ça sera sans doute mon plus grand regret si je le fais pas, de pas en avoir fait, sans parler d'avoir une équipe de foot, mais au moins quelqu'un qui nous ressemblait.
c'était le dernier titre de Nerloff et ça s'appelle Mon plus grand regret. Nerloff, un artiste vraiment brillant qui progresse de titre en titre et que j'adore. Et vous êtes bien sur Radio G, que vous pouvez écouter aussi sur une radio équipée du DAB+. On entre dans la dernière partie de Entre les pages et je suis toujours avec Sophie Coiffier, Karim Katan et Margot Wanard. Sophie Coiffier, on vous avait entendu pendant le festival Les Préférences. Vous voilà de retour au bord de la Loire. Vous êtes venue avec quel projet ?
Alors, j'ai l'immense chance d'avoir une résidence à la maison Julien Gracq en partenariat avec la Fondation de France. C'est une résidence de poésie qui court sur 3 ans, 2 mois par an. Donc je suis effectivement déjà venue une fois à la maison Julien Gracq en été. Maintenant, je profite du beau temps du mois de février. Voilà. Et en fait, c'est un projet de poésie qui je pars de l'album d'Image Nestlé de mon grand-père, qui date de 1927. Et je garde en fait les thématiques des pages, qui sont des thématiques un peu comme les albums encyclopédiques, sauf que là, c'est un peu plus le bazar, parce que c'est un album qui en fait la synthèse de plusieurs albums précédents. Mais les entrées, c'est par exemple Poissons, Oiseaux de mer, Évolution des habitations. Et en fait, à partir de ces entrées de pages, j'écris des poèmes, en lien avec mon grand-père, la relation que j'avais avec lui, en lien avec des lieux. Voilà, enfin, je me laisse guider un petit peu par les thématiques.
C'est un projet autour de la poésie de cette nature-là, sur cette longueur. Donc, c'est bien la première fois que vous êtes amené à travailler comme ça. La poésie, vous aviez déjà écrit de la poésie au sens pur du terme ?
Alors pur, je ne sais pas, mais oui, j'ai déjà écrit un livre de poésie qui s'appelait Le Poète du Futur, et qui est en fait un croisement entre un livre de poésie et un livre de science-fiction, mais qui est, on va dire en vers, grossièrement, mais bon, il y a un robot qui parle aussi dedans. Enfin,
ouais. Quoi, déjà ChatGPT ?
Non, c'est après ChatGPT.
Après, voilà. Alors, on est vraiment dans la science-fiction.
Voilà. En fait, il n'y a plus que, dans un pseudo-désert, il n'y a plus qu'un poète qui vit dans sa voiture et un robot, en fait, un insecte robot miniaturisé qui, à la base, est un insecte de surveillance, mais qui n'a plus d'unité centrale et qui va essayer de rentrer en communication avec le poète en essayant de comprendre les humains. Et pour essayer de comprendre les humains, en fait, il va faire du deep learning en se visionnant tous les films de Romer pour essayer de mieux comprendre. Donc, ça n'est pas gagné d'avance.
Le mot est bien choisi, c'est pas gagné. Et vous, Karim, vous êtes, vous aussi, vous êtes en résidence. Alors, vous travaillez-vous sur quoi ?
Moi, je travaille sur un roman qui s'appelle L'Étoile du Nord, qui raconte une échappée, deux personnages qui s'échappent d'un pays qui est en proie à une apocalypse. Et en fait, ils sont à la frontière sud du pays, dans une voiture, et ils doivent atteindre la frontière nord avant l'aube. Et donc ça se passe dans leur voiture une nuit du sud au nord.
Voilà. C'est un projet qui était déjà entamé avant. Enfin, il y avait déjà
C'est un projet très qui m'a pris un peu de cours parce que j'avais pas du tout. D'abord, j'avais pas prévu d'écrire un roman tout de suite. J'avais pas ces deux dernières années ayant été ce qu'elles sont. La fiction ne m'était pas forcément très accessible, mais et normalement je travaille beaucoup très 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 longtemps sur mes livres. Là, l'idée en tout cas s'est imposée très vite et je savais très vite ce que je voulais faire avec ce roman, ce qui est assez étonnant pour moi. Et ben, ça ne m'inspire pas confiance. Mais bon,
si, si, ayez confiance en vous.
Oh, j'ai confiance en moi, mais je me dis, bon, c'est un peu... Bref, c'est intéressant, c'est juste une manière d'écrire qui est un peu nouvelle pour moi.
Mmh. Margot, qu'est-ce qu'il faut annoncer sur la maison Julien Gracq prochainement?
Alors, dans l'ordre chronologique, je tiens juste à préciser que le cadre de la résidence de Karim Khatan se fait avec la Maison de la Poésie de Nantes, puisque au mois de mars, Karim, du coup, ira à Nantes pour continuer son travail d'écriture. Tu participeras aussi au Festival Atlantide, comme Jacinta Carqueta, qui est en résidence à la Maison Julien Gracq. Donc ça, ce sera le 20-21 mars, si je ne me trompe pas. Mais plus tôt dans le temps, donc on pourra voir Karim de quoi à la Cohue, la librairie Angevine, ce vendredi à 18h30. Donc le Festival Atlantide, et puis Sophie, pour terminer sa résidence, sera à Laval, au festival du premier roman de la littérature contemporaine. Donc,
très beau
on
festival.
On va se déployer un peu en région sur ce mois de février-mars.
C'est quand le festival du premier roman?
28-29 mars, c'est ça.
C'est un magnifique, magnifique festival.
C'est ça. Oui. Et d'ici, donc il y a ces événements-là plutôt chez des partenaires de la Maison Gracq. Mais on prépare là du coup l'ouverture de la maison en avril avec une exposition qui s'appelle Archipel. Donc c'est une sélection d'œuvres du collectionneur nantais Alain Le Provost, dévoilées à travers le prisme de la littérature, de l'espace du livre, en écho à l'univers de Julien Gracq. Et donc on a la chance du coup de recevoir comme œuvre une œuvre de Marcel Duchamp, de Francis Picabia, Fred Deux, Olivier Debré, Jérémy Benquin, Damien Dion et d'autres aussi. Donc ça va être une très très belle exposition pour réouvrir la maison pour ce jardin d'été à venir.
Eh bien, merci pour ces informations. Là, merci à vous trois. C'est l'heure d'éteindre les lumières du studio. Mais avant cela, un petit coup d'œil sur l'agenda. Ça commence le vendredi 13. Alors, qui va faire concurrence à Karim Khatan et à la librairie La Cohue? Il y a la librairie Mériagone. Il y a Margot Tatz qui est invitée. Elle travaille pour le jeune public. Elle vient de sortir un album qui s'appelle Le Grand Air aux éditions La Partie. C'est toujours beau, Margot Tatz. Donc, si vous aimez la littérature, vous allez vous partager en deux, débrouillez-vous. Et ça continue le 21 février au Repère des Héros, eux aussi infatigables. Ils organisent une rencontre avec trois dessinatrices, Cécile Dupuis, Vanida et Valérie Vernet. Donc c'est le 21 février, vous vous rapprochez du Repère des Héros parce qu'il faut toujours réserver avec eux. Et puis encore quelqu'un qui est venu dans l'émission, c'est Valentin Ledon. Il anime une émission diablement intéressante qui s'intitule Albertine. Des invités viennent parler de leur grand-mère. Ce projet voit un nouveau développement avec la publication d'une anthologie, Le goût des grand-mères, au Mercure de France. Et vraiment, je pense que si c'est du niveau de l'émission, il faut aller se plonger dedans. Enfin, il faut annoncer les prochains entretiens littéraires de la Collégiale Saint-Martin qui se dérouleront le dernier week-end de février et le premier week-end de mars. C'est une toute nouvelle configuration. Après 8 années sous la houlette d'Antoine Boussin pour cette prochaine édition, le premier week-end, donc fin février, sera consacré à la lecture jeunesse et au polar. Et le deuxième week-end, on retrouve la formule classique avec un plateau que seul Antoine Boussin est capable de concocter. On parle de la venue de Sorge Chalandon, par exemple. Il est nécessaire et vraiment plus prudent de réserver. Au cours de l'émission, vous avez écouté Nerloff qui a chanté Mon plus grand regret et Deva Hall qui a chanté No More Kids and Photos. Vous retrouverez toutes les informations et tous les liens relatifs à cette émission sur la page de Entre les pages sur le site de Radio G à la date de l'émission. Le prochain rendez-vous, ce sera le mercredi 25 février à 17h avec tous les organisateurs des entretiens littéraires de la Collégiale. Pourquoi se priver ? Dans quelques instants, ce sera le journal de 18h de RFI. Pas de magazine Topette aujourd'hui, voilà, un petit blanc, c'est un petit repos, quoi. Il faut bien s'offrir ça de temps en temps. Je vous souhaite une excellente soirée et maintenant...
In 500 meters, go straight, and then go straight.
Générique.